Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette émission. Eh bien, de quoi allons-nous parler à présent? Nous allons parler des mécanismes d'identification des victimes des violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité. Cela avait fait l'objet d'un forum, du premier forum national sur l'identification des victimes des violences sexuelles, organisé par le Fonareb ici à Kinshasa. Et pour en savoir plus, nous recevons Monsieur Lucien Lundula, directeur général du Fonareb. Monsieur Lucien, bonjour.
Bonjour Monsieur Kachama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations. Composez le 081 890 63 94. Non, c'est pas ça le bon numéro. Appelez plutôt au 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Tati Mapoukou réalise cette émission au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Capi à la Maison de l'Entrepreneuriat de Kinshasa avec Okapi Service. Rendez-vous ce mercredi 6 décembre des 11h à 13h pour une émission spéciale avec 1000 entrepreneurs, parmi lesquels les jeunes, les femmes, les responsables d'incubateurs des start-up, les PME ainsi que les porteurs des projets innovants. Au menu, quelles sont les stratégies des créations des millionnaires et milliardaires congolais? Radio Capi avec les entrepreneurs. C'est pour ce mercredi 6 décembre à la Maison de l'Entrepreneuriat, première rue Limetefuna. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. L'entrée est gratuite. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission au Capi Service. Les rideaux sont tombés le mercredi 29 novembre dernier sur le premier forum national sur l'identification des victimes des violences sexuelles, la procédure des réparations individuelles et le partenariat avec l'écosystème. C'était ici à Kinshasa. Alors, organisé par le Fonareb, ce forum a réuni pendant 3 jours les experts, les représentants des victimes, les ONG et autres associations d'aide aux victimes venues des divers horizons. Alors, quelles sont les méthodes et stratégies adoptées lors de ces travaux pour identifier les vraies victimes dans le but de réparer les préjudices subis depuis 1993? Alors, avant d'accueillir notre invité, je vais vous convier à suivre cet élément. Les victimes qui ont participé à ce forum se sont exprimées à l'issue, lors de la clôture. Alors, écoutez.
Je m'appelle Madame Ngoma Lili. Je suis de Kinshasa. Je suis la survivante des victimes. C'est difficile, hein, pour nous que l'histoire nous soit. Pour nous que l'histoire nous soit, l'histoire nous pas si ça paye à moi. Nous venons maintenant à Kinshasa. Juste, na veni Bondo, numéro 32, na Kimbang. Na Kimbang, au commune à Kalam. C'est vrai que na 2003. Depuis comment qui les Cambouana violent ouana, ils avaient quand engagé mon côté, na moi l'engagé, ils avaient qui mouqué, le long moi l'engagé ouana, tout tindier qui pendant aucun effet, déjà ça tout tindier na Tunisie, pour que nous tenions na Tunisie, bah t'es bien parce que quand ça que pour moi mais y a bah viol sexuel ouana, ils allaient quand na est des bons abo, mais après na qui ça ils allaient, ah on était na qui ça ils ont ça la mébélé, tu vois là que si puis na criminel bah côté le rabis sur la boutou. Bango tu as salé comme ça là ou non yate na sepe na fona rêve depuis tant wana na lela mingi na ni rosungangai na ni solution ezana na nani mais le lo na ye komona ke fona rêve ayi pour na couper sa biso susu toujours susu espoir tango ba yeki ko sala enquête pour que na kanti ke na ko sala sauver na kuta ki na moni ki parmi ba to ba sala enquête na kati na ba criminel ba zaki na kati pour na ngai na commission ile ki o ya communication na zala ki na kati na sepeli na sala musala sensibilisation na kota tan équipe de sensibilisation na koko ndima isusu likambo violente.
Moi je réponds au nom de Bovi Kaninda, je suis victime du Katanga. On est victime des atrocités 1993 du conflit katangais kasaïen qui ont ravagé le grand Katanga à l'époque. Moi j'étais victime de l'ICASI. Cette histoire m'a touché alors que j'avais à l'époque 11 ans. Nous sommes réveillés un matin comme ça, c'est un peu douloureux. Nous sommes réveillés un matin, nous avons vu les gens entrer chez nous, commencer à nous menacer, ce qui a fait que nous sommes allés nous réfugier dans la gare. et par après nous sommes partis jusqu'au Kassai. Bon, on est un peu content que ce genre de les travaux puissent se dérouler en présence de nos victimes, parce qu'il est idéal quand on fait quelque chose pour vous que vous participez, vous voyez où ça va aboutir. On est content sur ça, du fait que c'était une histoire qui était restée comme ça, les auteurs à l'aise, qui étaient en train de marcher sans être inquiétés ni par la justice ni quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on arrive est revenu sur ça pour voir dans quelle mesure réparer les blessures des atrocités qui se sont passées à l'époque. À 11 ans, je n'ai pas pu étudier 2 ans quand j'étais parti. J'ai vu un oncle paternel décédé devant moi, enterré au bord de la route. Vous voyez un peu ce qui fait très mal. Mais aujourd'hui, quand on réveille cette blessure, il faut que la réparation puisse être vraiment effective.
Soumira Moulomba, président de l'Association nationale des victimes du Congo. C'est une date historique qui couronne, n'est-ce pas, la troisième journée de ce premier forum axé sur le processus de l'indemnisation, d'identification qui doit absolument déboucher sur le chemin lié à des mesures réparationnelles individuelles qui doivent en principe être apportées aux victimes, pourquoi pas aussi aux survivantes de violences sexuelles de provinces touchées par les conflits armés. Donc, à ce jour, nous ne pouvons que traduire notre sincère remerciement au directeur général avec toute sa direction pour la qualité du travail et le professionnalisme qui ne cesse d'offrir à toutes les victimes, mais aussi, pourquoi pas aussi, à l'écosystème, censé travailler et œuvrer ensemble pour l'intérêt supérieur de toutes les victimes de provinces touchées par les événements malheureux. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Fonds national de réparation lance un message fort à toutes les victimes qu'il est temps de se réveiller, enfin qu'ils soient consolés, surtout pour la réduction de leur frustration. Le grand travail sera en train d'être fait sur terrain. Et ma structure, l'Association nationale des victimes du Congo, est sur terrain en train de procéder à l'identification de toutes les victimes éligibles à l'obtention de mesures réparationnelles collectives, pourquoi pas aussi individuelles. Donc aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec le Fonds national des réparations. Je crois que nous sommes en train de raffermir nos relations pour voir dans quelle mesure demain nous pouvons absolument consoler toutes ces victimes qui prouvent absolument d'énormes souffrances. Je crois que les rassonner pour que chacune d'entre nous puisse bénéficier des prestations émanant du Fonds national des réparations, mais aussi surtout avec la bénédiction du directeur général Lucien Lundula. Merci.
Bien, c'était là quelques réactions des victimes et associations des victimes lors de la clôture du premier forum national sur l'identification des victimes des violences sexuelles, la procédure des réparations individuelles et le partenariat avec l'écosystème à Kinshasa. Monsieur Lucien Lundula, encore une fois bonjour.
Merci à vous, Monsieur Kachama, de nous inviter, nous donner l'opportunité pour que nous puissions faire un peu le point sur le travail que nous sommes en train d'abattre au niveau du FONAREV.
Alors, qu'est-ce qui vous avez motivé d'organiser ce premier forum sur l'identification des victimes?
Comme vous le savez, notre mission principale, c'est d'aboutir à des réparations individuelles et des réparations collectives. Mmh. Et pour parvenir à cela, à nos objectifs de réparer nos victimes, il y a toute une série de préalables qu'il nous faut poser. Parmi ces préalables, il était question de faire ce premier forum sur l'identification des victimes en tenant compte de toutes les parties prenantes pour que nous puissions ensemble adopter toute une série de points ou de recommandations tenant compte non seulement de l'écosystème de victimes, des victimes elles-mêmes et des experts qui sont concernés par rapport à cette situation.
Voilà. Et alors, à l'issue de ce premier forum de 3 jours, quelles sont, disons, dans l'ensemble, les recommandations qui ont été adoptées?
D'abord, avant de parvenir, puisque là, vous allez directement à la fin, mais j'aimerais d'abord expliquer et montrer un peu quelle a été la méthodologie de ce travail, qui est un travail qui, au fait, essentiel, plus tard vous verrez, c'est les fondements même au niveau des réparations. Mmh. Donc, en termes de méthodologie, nous avons d'abord voulu associer toutes les parties prenantes avec une séance plénière où il y avait les experts et les différentes parties prenantes.
Les associations, les ONG.
Les associations, les victimes, les organismes internationaux qui s'occupent de toutes ces questions de violence basées sur le genre. Mmh. Et je tiens ici à faire un petit rappel. Vous avez parlé de violences sexuelles, mais il s'agit de violences et des crimes internationaux en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que les victimes de violences sexuelles, c'est important de le préciser.
D'accord.
Et par rapport à ça, ben, on a organisé les travaux en trois commissions. Il y avait une commission d'identification. Il y avait une commission d'identification et la communication. Mmh. Et l'autre troisième commission s'occupait...
De la gestion de l'écosystème.
De la gestion d'écosystème. Mmh. Donc voilà, à partir de ces trois commissions, il y a eu donc des travaux qui ont été réalisés tout au long de ces trois jours, pendant ces trois jours. Et des recommandations ont été formulées au niveau de ces commissions. Par exemple, les recommandations de l'identification des victimes, il a été mis en évidence qu'il était important de mettre des mécanismes efficaces de protection des données des victimes, parce qu'il était important pendant, après l'identification, parce que c'est sur base de cette confidentialité que la victime en tant que telle peut se sentir sécurisée pour enfin témoigner par rapport à ce qui est arrivé. Mmh. Il était important de savoir comment nous allons rajouter les personnes sur la liste unique consolidée, qui est la liste dans laquelle, une fois qu'on vous identifie en tant que victime, en tant que telle, comme véritable victime...
On ne peut plus modifier, il n'y a plus possibilité de frauder.
Normalement, cette liste sera non seulement... contiendra tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que, une fois que vous avez été identifié en tant que tel, en tant que victime, que cette liste ne soit pas manipulée ou qu'on vienne faire des ajouts ou encore manipuler. Et ça a été longuement échangé. Il y a eu des échanges par rapport à cette question pour que la sécurité de la liste unique consolidée des victimes soit évidente. Et puis, par la phrase, la confidentialité a été vraiment un des éléments essentiel et la sécurité de la liste a été essentielle.
Et vous avez parlé aussi de la délivrance des cartes des victimes sécurisées.
Oui, quand on parle d'une liste unique consolidée, il s'agit là aussi il y a beaucoup d'interventions au niveau, dirons-nous, de tout ce qui est un peu informatique, c'est-à-dire qu'il est question de faire beaucoup de digital là-dedans. La liste se fera de manière digitale. Il faut une carte sécurisée digitale qui permettra par après, lorsque nous passerons aux réparations, pour que les personnes puissent être fiablement détectées. Voilà.
Et puis, on a aussi appris que vous comptez identifier les victimes même dans les pays qui se trouvent dans les pays limitrophes de la RDC.
Monsieur Kachama, quand on parle de victimes, on parle de victimes sur 30 ans, c'est-à-dire que depuis 1993. Vous comprendrez bien que ces victimes n'attendront pas, n'ont pas entendu de rester là où ils ont connu des préjudices. Certains, entre-temps, ont décidé, bien qu'étant victimes, d'aller vivre dans des pays limitrophes. D'autres sont partis encore plus loin vers l'Occident ou ailleurs. C'est tout un exercice assez complexe et de longue haleine où il faudra effectivement identifier ces victimes, bien que n'étant pas sur le sol congolais. Et il y a tout un travail à faire à ce niveau-là également.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la proposition de commencer par une identification pilote ?
C'est important. Mmh. C'est important parce qu'à ce moment-là, chacun pourra jouer sa partition. Les enquêteurs feront leur travail sur le lieu, parce qu'il est question d'identifier non seulement le lieu, et utiliser... Imaginez un peu qu'il faut... réparer une personne sur un événement qui s'est passé dans un territoire précis de la RDC il y a 20 ans. Mmh. Il y a des organisations de droits de l'homme ou internationaux internationales qui étaient sur le lieu. Il faut recourir aux informations qu'on avait recueillies le lendemain de l'événement. Il faut travailler avec les ONG ou les personnes de ce qu'on appelle de témoins oculaires de l'événement pour pouvoir sécuriser ces informations-là. Alors, par rapport à ça, il est important de voir tous les mécanismes qui ont été décidés ou proposés, si cela fonctionne ou pas. Vu que vous savez qu'on avait fait une itinérance sur 5 provinces pilotes, nous choisirons parmi ces 5 provinces pilotes pour pouvoir faire cette opération d'identification. Parmi les recommandations proposées par au niveau du FONAREF par nos experts, il était question de voir si cette opération pouvait se faire sur 15 mois. Alors, entre-temps, pour être sûr que nous allons vers la bonne direction, il est important de faire une identification miniature sur un territoire.
Pendant combien de temps?
Là,
15 mois toujours, non?
Non. Il est question de voir si on fait ça à un niveau assez réduit pour y parvenir peut-être dans le 3 ou encore 5-6 mois. Dans tous les cas, c'est un exercice qui ne peut se faire en quelques jours.
Et vous voulez, il y a une préférence, que ça commence à l'est du pays. Pourquoi? Parce que
ben, l'est du pays, Monsieur Kachama, c'est l'épicentre de violences, aussi bien basées sur le genre que les violences comme armes de guerre. Et vous savez que globalement, bien que n'ayant pas totalement, on parle de plus ou moins de 7% de la population de la RDC qui serait des victimes de ces violences internationales et des violences liées aux violences sexuelles liées en temps de conflit. La partie est de la République démocratique du Congo représenterait approximativement, selon les experts, plus ou moins 40%. Donc il était important que nous puissions commencer par là en termes de quantité et en plus l'attente, parce que eux ont été les toutes premières victimes dans les années 1993. Donc l'attente a été tellement longue par rapport à cet exercice de réparation que nous sommes attelés à réaliser. Donc nous avons estimé bon qu'il fallait commencer dans cette partie de la République. Mais cela n'exclut pas que nous allons faire en sorte que les autres parties de la République puissent également connaître ces exercices d'identification, puis par la suite des réparations.
Et pour réaliser cette identification des victimes, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est important d'associer les associations des victimes pour question de crédibilité, surtout?
Absolument. Non seulement nous allons les associer, nous allons associer les victimes elles-mêmes et toutes les organisations. Nous n'allons pas inventer la roue. Je le dis, je crois que c'est la troisième fois que vous et moi nous échangeons sur toutes ces questions. Il est important, nous voulons une approche qui soit vraiment intégrante où toutes les parties prenantes sont impliquées dans tout le processus, non seulement par rapport à l'identification, plus tard par rapport aux réparations, parce que nous voulons impliquer quelque chose où toutes les parties prenantes sont impliquées. À ce moment-là, ça sera une procédure qu'on aura adoptée tous de commun accord.
Bien, on va écouter une autre réaction. Elle vient d'une dame qui est responsable d'une ONG, Buenamuntu, voilà, elle vient de la région du Kasaï. On va écouter sa réaction dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations, eh bien, appelez au 099-706-9941. 099-706-9941. Appelez à ce numéro pour participer à cette émission de la vie au quotidien. On va accueillir un maître Kigalo. Il est en ligne depuis Kinshasa. Maître, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au mécanisme d'identification des victimes des violences?
Je salue le travail qui est fait. Nous, à l'époque, nous avons applaudi lorsqu'en 2006, on a voté la loi portant lutte contre les violences sexuelles. On a également applaudi lorsqu'on a promulgué la loi portant code pénal militaire qui réprime les crimes contre l'humanité. Et la RDC a même ratifié et intégré dans son ensemble législatif les statuts de Rome qui punit de telles choses. Déjà, les faits ou les mécanismes d'identifier des rapérés existaient. Je suis heureux aujourd'hui d'apprendre que Fonaref existe. On ne peut que saluer. Ma première question est celle de savoir quelle est la nature juridique de Fonaref. Est-ce une ONG, un service public? Si tel est le cas, c'est sous tutelle de quel ministère? Deuxième question qui est fondamentale pour moi, je crois beaucoup d'auditeurs partageront mon avis, sur quoi se base Fonaref pour identifier les victimes des violences sexuelles, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre? Nous sommes au Congo, on sait comment les gens fonctionnent. Quelqu'un peut se lever un bon matin et dire qu'elle est victime. On en a vécu, moi, en tant qu'avocat, j'en vis. Il y a des gens qui instrumentalisent leur fille pour dire que telle m'a violée. Nous avons vu des cas comme ça et à la fin, la fille finit par reconnaître. Sur base de quoi, sur base de quels critères on identifie les victimes? Parce qu'il est démontré en science que peut-être en matière de violences sexuelles, après 3 jours, les signes disparaissent. Donc après 3 jours même, nous avocats, on a difficulté de démontrer devant le juge que telle a été violée. Et il se base sur quoi? Sur les simples déclarations des victimes ou les enquêtes ont réellement été menées? Sinon, on risquerait d'identifier les escrocs qui se passent pour des victimes. Deuxièmement, par rapport à l'autre question, on parle des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Il y a des personnes qui écoutent qui ne savent pas ce quoi. Moi, je suis avocat, je sais ce que c'est. Je demanderais à l'invité de nous dire qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui ont été victimes de crimes contre l'humanité, mais ils ne savent pas que ces crimes ont été un crime contre l'humanité. Tout crime n'est pas un crime contre l'humanité, tout crime n'est pas un crime de guerre. Si l'imputé peut définir et dire qui sont victimes des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, pour des raisons pédagogiques. Dernière question, en quoi consiste la réparation? Elle est seulement financière ou il y a également une prise en charge? Parce que à l'Est, par exemple, il y a des femmes dont les parents étaient violés à leur présence. Il y a des frères qui ont vu leur sœur être violée. Au-delà de l'aspect physique qui a été perturbé, il y a aussi un aspect moral. Lorsqu'on prend en charge, lorsque Fonarep répare, il se limite à la réparation financière en donnant quelque chose, où il y a également une prise en charge psychologique, médicale, etc. Voilà ma préoccupation, j'ai dit, et je vous remercie.
Bien, merci beaucoup Maître Omar, désolé pour ce temps mort, voilà. Monsieur Lucien Ndoula, qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Omar par rapport à ses préoccupations?
D'abord, je remercie Maître pour ses différentes questions. La première, pour répondre à sa question, la toute première question de savoir quelle était
la nature juridique du Fonarep.
Le Fonarep est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère des droits humains. Et ça, c'est, je crois que ça dénote même de la volonté politique du gouvernement actuel et du chef de l'État de faire en sorte qu'il existe dorénavant en République démocratique du Congo un établissement public qui soit de nature à prendre en charge les victimes dans le cadre de la justice transitionnelle, qui est de le pays tient à corriger ses erreurs du passé. Donc voilà, ça c'est pour répondre à
sa première question. Deuxième, sur quoi vous allez vous baser pour identifier les vraies victimes? Parce qu'il dit il y a beaucoup de gens qui trompent.
Et là encore, le maître a raison. Vous connaissez, on se connaît, nous, en tant que Congolais. Donc, dès qu'on parle de réparation, effectivement, du coup, nous avons beaucoup de personnes qui se présentent en tant que telles. La preuve en est que je crois que c'est le jour même de ma nomination, j'ai reçu quelques coups de fil de personnes.
Déjà.
Oui, le jour même. Et parmi, je sais pas comment ils ont fait pour trouver mon téléphone, mais ils l'ont trouvé.
Pour vous dire que nous sommes des victimes.
Voilà. Et certains avec des montants que vous ne pouvez imaginer en termes de millions et tout. Alors, pour en termes de critériums par rapport à ça, d'abord il faut répartir toujours dans le lieu où l'incident s'est déroulé, parce que là-dedans, une fois de plus, tout le monde, les gens qui ont vécu une certaine expérience, on ne peut pas dénaturer cette expérience-là. Donc c'est important de refaire des enquêtes sur terrain pour savoir quel était l'organisme international qui était là à ce moment-là, quel était l'organisme national qui était là à ce moment-là.
Est-ce que les faits étaient documentés?
Documentés, voilà. Parce que généralement, les faits sont toujours documentés. Alors il faut se servir de partenaires qui ont assisté au lendemain de fait sur l'incident. Il y a des décisions juridiques qui existent sur ces incidents. Donc il y a un travail d'enquête sur place avec les organisations ou les partenaires qui étaient là sur place. Et à partir de ces enquêtes, à partir de jugements, on peut faire en sorte que finalement, on commence à identifier les vraies victimes. Parce que supposons qu'un incident se passe ici, je donne souvent cet exemple-là.
Oui.
Vous êtes ici sur Colonel Mondjiba. Il y a eu des incidents majeurs, par exemple, sur l'enclos ici. Les gens qui ont vécu cette expérience-là, on peut les identifier parce qu'il y a un document qui existe, un PV qui existe de cet événement-là. On va savoir si vous n'étiez pas là, vous, en tant que Monsieur Kanchama, à l'époque des faits, et que 30 ans après, vous venez vous désigner quoi, en tant que comme victime. Nous allons nous référer par des enquêtes aux personnes qui ont participé à ces événements-là. Nous, en tant que Fonarep, nous allons interroger, voire faire entrecouper, au fait, entrecroiser les informations pour faire en sorte que finalement nous ayons la bonne version
des faits. Mais parce que les tricheurs peuvent aussi fabriquer des documents.
Monsieur Kanchama, les tricheurs, il y en a partout. Même en Occident, il y a eu on peut donner un exemple concret. Combien de fois n'a-t-il pas eu des attentats à la bombe où on a vu de fausses victimes? Les gens, enfin, par les plus, dirons-nous, audacieux, se permettent de se présenter en tant que telles comme victimes pendant qu'elles ne le sont pas. Donc c'est vrai que nous aurons à buter...
C'est pas un travail facile du tout.
C'est un travail de longue haleine. Il faut entrecroiser les informations, voir les documents de première main au lendemain des violences. Et c'est tout le travail que nous avons fait pendant ces 3 jours pour voir quelles sont les méthodes, quelles sont les procédures, quelles sont les personnes ou les partenaires qui doivent être parties prenantes avant l'identification, pendant l'identification et après l'identification.
Voilà, sa troisième question, c'est quoi, vous parlez des crimes contre l'humanité, de quoi s'agit-il?
Oui, il s'agit de tous ces crimes qui se sont déroulés par rapport aux guerres qui se sont déroulées ici en RDC. Ce sont des crimes qui vont directement sur le droit de la personne. Quand vous ôtez la vie, quand vous agressez de manière aussi... on a vu qu'il y a eu de fosses communes ici en République démocratique du Congo. C'est tous ces crimes odieux qui ont été réalisés ici en République démocratique du Congo qu'on considère comme étant des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité.
Bien, Maître Omar veut savoir aussi quelle est la nature, la réparation, quand vous parlez de la réparation, il s'agit tout simplement de la réparation financière ou bien il y a plusieurs aspects.
Monsieur Kanchama, nous sommes dans le cadre de la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, il y a 4 piliers au niveau de la justice transitionnelle, à savoir, connaître la vérité, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des victimes. Deuxièmement, il y a le pilier justice ou accompagnement des victimes par rapport à leurs droits. Ils veulent être que le bourreau puisse être arrêté,
jugé, condamné.
Et puis il y a la partie réparation. La partie réparation, il y a 2 volets. Il y a la réparation individuelle, il y a la réparation collective. Et dans les réparations individuelles, il y a là aussi, on peut avoir tout simplement un relèvement socio-économique. On peut avoir un accompagnement psycho-médical. Au fait, il y a la réparation est prise de manière holistique. Mais il y a un autre quatrième volet, c'est la garantie de non-répétition. Que ce qui s'est passé là ne puisse plus se reproduire. Donc on est vraiment dans le cadre de la justice transitionnelle, dans son volet réparation qui peut être individuel ou collectif.
Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Baptiste. J'ai dit.
Ah oui, maître, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'identification des victimes de violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité?
Bon, j'aimerais un peu que l'invité puisse nous expliquer, parce qu'il y a un fonds là au profit des victimes au niveau de la CPI. Tu peux nous expliquer quel rapport y a-t-il entre ce fonds là et cet organe au niveau national? Étant entendu que la majorité des crimes qu'il est en train de citer là relèvent actuellement de la compétence de la CPI dont nous sommes partis. Et on a eu aussi à déférer certains ressortissants là-bas qui ont été condamnés. On suppose qu'il y avait des victimes dans ces pareils cas où il y a même des jugements, des jugements sur la réparation en leur faveur. Quel est le rapport qu'ils sont en train de tisser avec ces fonds-là? Et puis, vous n'ignorez pas que les pareilles choses qu'on crée comme ça, ça doit avoir ce qu'on appelle les sources de financement, des ressources. Hein. Vous n'avez pas avoir une idée qu'est-ce qu'il a déjà récolté en termes de ressources pour réparer les différentes, en quelque sorte, différentes victimes qui sont déjà répertoriées sur base des jugements rendus au niveau national ici. Bon, je voulais un peu enchaîner aussi pour dire un mot à Maître Omar, si pas Maître même par rapport à sa question. C'est vraiment une question purement technique voulant savoir ce qu'on entend par crime de guerre ou crime contre l'humanité, mais succinctement en tant que juriste aussi, je pouvais dans les cas d'espèce préciser que lorsque nous parlons des crimes de guerre, ce sont toutes ces atrocités-là qui se commettent pendant la guerre. Pendant qu'on est en guerre, tout ce qui se commet là, les meurtres, les vols, tout ça. Bon, les crimes contre l'humanité, ça peut être les mêmes atrocités, mais dans la plupart des cas, ça c'est comme on cible une communauté
D'accord, merci maître Gaston, merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà, on va écouter la réaction d'une participante responsable d'une ONG, Buenamuntu, venue du Kassai. Suivez.
C'est pour moi une occasion de demander beaucoup plus à l'écosystème. Mais...
voilà, on va suivre cet élément dans quelques instants. Il s'agit de la responsable d'une ONG, Buenamuntu, qui est venue du Kassai pour participer à ce forum. Alors, avant de suivre sa réaction, monsieur Lucien Lundula, qu'est-ce que vous pouvez dire à maître Gaston par rapport à ces questions?
Bon, la première par rapport à la CPI, nous sommes au courant que au niveau des crimes internationaux, il y a des Congolais ou d'autres personnes qui ont été, il y a des procédures en cours et il y a un montant effectivement qui a été décidé au niveau de la condamnation d'un des criminels. Mm-hmm. Nous, en tant que Fonareve établissement public, nous allons travailler en collaboration avec le ministère de la Justice qui s'occupe de toutes ces questions au niveau de ces pays. Nous allons également collaborer avec le ministère des Droits humains et le ministère de Genre pour faire en sorte d'aller capter ces fonds pour la République démocratique du Congo. En effet, ces fonds qui sont là pour la condamnation des bourreaux et en faveur des victimes, effectivement, nous, en tant que Fonareve, en tant qu'établissement public, qui est une grande première, au fait, pour la nation, nous avons droit à poursuivre, effectivement, à faire toutes les démarches nécessaires pour capter les fonds qui soient... au niveau de la CPI ou d'autres organisations internationales. Mais effectivement, le maître a également posé la question en termes de financement du Fonareve. Là aussi, la volonté politique y est, au niveau aussi bien de législateur que de l'initiateur, que le chef de l'État, pour doter le fonds d'une série de fonds ou de moyens. Il y a le budget de l'État, il y a une partie des assurances qui devrait revenir évidemment au Fonareve. Il y a également 2,5 au niveau des produits de crédit carbone, mais la partie la plus stable du Fonareve dans son budget, c'est dans les redevances minières. Comme vous le savez tous, le Premier ministre a signé un décret au mois d'octobre où il était clairement établi que le Fonareve dorénavant fait partie des bénéficiaires de redevances minières à hauteur de 11%. Et là aussi, au moment où nous sommes en train de parler, nous avons déployé à travers la République, où il y a les miniers en tout cas, pour que cela devienne opérationnel. Et c'est déjà fait depuis le début du mois d'octobre, début du mois de novembre, où les différents miniers sont en train de déverser leurs redevances auprès du Fonareve.
Bien, on va suivre le son de Madame Isabelle Pendeza. Elle est responsable du collectif des femmes pour le développement. Elle nous vient du Nord Kivu. Suivez.
C'est pour moi une occasion de demander beaucoup plus à l'écosystème, mais aussi à l'équipe du Fonareve, d'insister beaucoup plus sur le renforcement des capacités de l'écosystème, mais aussi de vulgariser d'abord la loi, que cette loi soit bien comprise, mais aussi que ça soit approprié, que les acteurs, que les parties prenantes s'approprient cette loi, parce que c'est très très bénéfique pour nous tous. La finalité, c'est la réparation, et cette réparation va se faire à des différents niveaux. Il y aura la réparation individuelle, mais aussi il y aura la réparation collective. Et donc, c'est pourquoi j'insiste sur la vulgarisation de la loi, parce que tout a été clarifié, tout est clair dans cette loi, et où les gens vont travailler à partir de ce qui a été écrit dans cette loi. Parce que les soubassements de tout ce qui va se faire sur les terrains, c'est la loi. C'est pas aujourd'hui que nous, on a commencé à travailler dans tout ce qui est violence sexuelle liée au conflit. On faisait les monitoring des cas. Depuis longtemps, je signale que le collectif des associations féminines a été créé depuis 1993 avec les troubles au Rwanda, les réfugiés qui sont venus au Congo. Donc c'est là-bas qu'on a commencé. Et donc, on va travailler encore dans les monitoring, comme d'habitude, mais aussi dans la prévention, parce que tout est basé sur la manière dont on va travailler dans la prévention de ces conflits. Et comme nous le savons tous, les conflits au Congo, c'est vraiment un cycle. C'est un cycle et donc on doit toujours continuer à travailler dans ce sens, mais aussi apporter de l'aide aux bénéficiaires qui sont d'ailleurs au centre de ces fonds. Tout ce que moi je pense faire, c'est pas moi, mais toutes les structures qui font partie du collectif.
Il y en a combien?
Le collectif aujourd'hui est constitué de 36 organisations féminines qui sont basées dans différents territoires de la province du Nord Kivu. On doit aussi travailler avec les autorités locales, on va travailler avec les leaders communautaires, on doit travailler avec différentes couches. Et aussi, on doit travailler avec les autorités politico-administratives. Donc, à un certain moment, on doit travailler aussi dans les plaidoyers. Il y aura beaucoup de choses sur lesquels les collectifs va s'impliquer, va s'engager. On est engagé bien sûr, mais on va encore s'engager davantage.
Bien. Merci Madame Isabelle Pendeza du collectif des femmes pour le développement de la province du Nord Kivu. Elle était invitée. Votre réaction, Monsieur le Déjà, après l'avoir écouté.
Madame Isabelle Pendeza a bien circonscrit toute la question qui est lié à la vulgarisation et à l'appropriation de la loi par la population congolaise et les victimes en particulier. Mmh. Et là, ça me donne l'occasion de dire en effet, ça fait partie de recommandations qui ont été formulées par la commission communication, où il était question, un, d'impliquer les victimes, non seulement comme cibles, mais comme acteurs au niveau de la sensibilisation. Mmh. Ils seront vraiment en avant-plan si, au niveau du Fonarev, ce rôle de vulgarisation et d'appropriation appartient à la direction générale et aux autres services, mais nous allons réellement utiliser la victime non seulement en tant que cible, mais comme acteur de la communication. Oui. Nous allons prendre évidemment en considération les victimes qui se trouvent aussi bien en RDC qu'en République démocratique, en dehors de, dans les pays frontaliers. Mmh. Et là aussi, nous avons demandé au niveau des ONG de voir comment est-ce que ensemble nous pouvons faire en sorte de décourager cette pratique de fausses victimes que nous avons évoquée tout à l'heure. Et toujours dans le même cadre par rapport à son intervention, au niveau de l'écosystème, on a demandé qu'on puisse renforcer également là aussi le renforcement des capacités des acteurs, parce que bon, beaucoup sont dans ce domaine-là, mais ne sont pas nécessairement outillés en termes de méthodologie de travail. Et là aussi, c'était vraiment une demande au niveau de... une recommandation au niveau de la commission de l'écosystème.
Et l'écosystème est composé des ONG locales, nationales, internationales.
Des associations qui aident les victimes, oui, ou les ayants droit des victimes. Mmh. Et vraiment, c'est...
Et les services étatiques, hein, il y a également
des services
étatiques.
Absolument, c'est-à-dire qu'en tant que... enfin, les ministères de droits humains, le ministère du genre...
Les cabinets indépendants
de la justice, des cabinets indépendants. En fait, c'est vraiment toutes les parties prenantes liées à la question des violences sexuelles en temps de conflit, mais également... des crimes internationaux. Mmh.
Oui. Bien, on va écouter la réaction du ministre Fabrice Puella, qui était à la clôture de ce premier forum sur l'identification des victimes des violences sexuelles. Écoutez.
Ce qui avait été un rêve, la mise sur pied d'un établissement public, le Fonarev, est aujourd'hui plus qu'une réalité. Depuis quelques mois, nous sommes en train de voir le Fonarev à l'œuvre, déjà avec des interventions, mais au centre de Fonarev, ce sont des victimes. Ces victimes, il faut les connaître. Il faut les lister, il faut les identifier pour pouvoir intervenir. Premièrement, et je n'en doute pas, dans le cadre d'une réparation collective et peut-être plus tard, dans certains cas précis, des réparations individuelles. Cela est d'autant plus important que certains peuvent être des faussaires. D'autres peuvent profiter de cette situation pour mener Fonarev en bateau. Il était donc important qu'on réfléchisse ensemble avec l'ensemble des partenaires qui considèrent l'écosystème pour savoir comment agir. Tout à l'avantage, et nous jetons des fleurs à l'équipe de Fonarev dirigée par les DG, M. Lucien Lundula et Mme Emmanuelle, ainsi que tout le staff pour ce travail qui a bâti. Nous attendons beaucoup d'eux. Pas seulement les chefs d'État, mais les premiers bénéficiaires des Fonarev, les victimes qui, comme le chef de l'État l'a dit, dans sa tenue qu'il a arborée il y a quelques jours, les victimes ne doivent plus jamais se sentir seules. Voilà au fait les sentiments que nous avons. Et nous, en tant que ministère de tutelle, très modestement, très humblement, nous pouvons nous dire que nous aurons été utiles à quelque chose pour l'humanité, pour la République, voire Fonarev être une réalité aujourd'hui.
Bien. Désormais, vous n'êtes plus seul. On peut dire que c'est le message principal.
C'est notre campagne, plus jamais seul. C'est pour nous, vous l'avez vu récemment, le chef de l'État arborer une vareuse de nos léopards avec la mention en front de la vareuse, plus jamais seul. C'est vraiment l'occasion pour nous de remercier une fois de plus le chef de l'État. Quand on parle de ses acquis, quand on parlera des acquis de son premier mandat, le Fonarev en tant que tel fait partie de ses acquis du premier mandat du chef de l'État. Il y a une volonté politique, on connaît toute la démarche, l'implication de la distinguée première dame pour que Fonarev devienne réalité, le travail qui a été abattu au niveau du Parlement congolais, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que du Sénat, également on ne peut oublier l'activisme, dirons-nous, institutionnel du Premier ministre pour que finalement tout ça soit fait. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une volonté politique, c'est l'aspect, dirons-nous, social du pouvoir en place, du chef de l'État, pour faire en sorte que nos victimes, qui longtemps abandonnées, plus de 30 ans, ne soient plus jamais seules. Je crois que le message du ministre a été clairement établi. Parce que des fois, comme on le dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Parce que si aujourd'hui on peut parler de Fonarev, c'est qu'il y a eu des personnes dans cette nation, des institutions qui se sont impliquées pour que nos victimes, effectivement, ne soient plus jamais seules.
Bien. Et est-ce que vous avez une idée du nombre global de ces victimes depuis 1993 jusqu'à ces jours? Est-ce que...
Vous avez raison. Tout le monde s'interroge sur le montant exact ou le nombre exact de victimes. Mais la référence reste toujours le rapport Mapping qui, à l'époque, on parlait de 6 à 7 millions. Mais selon certains experts, on n'est toujours pas là puisqu'on n'a toujours pas pu avoir un nombre exact. On parle d'environ 7% de la population de la RDC. Donc c'est vraiment un montant ou un nombre assez élevé. Mmh. Il nous faudra effectivement être beaucoup plus rigoureux en termes et vraiment en termes de travail, des méthodologies de travail. À ce stade-ci, je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre ou un montant. Comme vous le savez, même au moment où on parle aujourd'hui, il y a peut-être eu encore, il y a toujours encore des victimes dans la partie est de la République. Mais c'est vrai que c'est un travail là aussi qu'il nous faudra abattre pour avoir un montant important. D'où l'importance de ce premier forum sur l'identification des victimes, parce que ça nous permettra in fine, puisque c'est la base même donc du travail pour parvenir à un moment donné à avoir... un nombre qui soit réel. Donc c'était vraiment l'objet même de l'exercice que nous avons eu à faire au début de la semaine, de lundi à mercredi, au niveau de l'hôtel Hilton de Kinshasa.
Alors, qui vont descendre sur terrain pour aller identifier ces victimes? Vous allez commencer par les 5 provinces pilotes, j'imagine.
Tout à fait. Donc, comme vous le savez, au niveau du Fonarev, en dehors du département administration, nous avons une personne qui est directeur des opérations, et ça se déroulera durant nous au niveau de ces départements là où nous allons envoyer sur terrain des enquêteurs qui travailleront avec l'écosystème concerné dans la région pour finalement aboutir à quelque chose qui soit fiable et acceptable par tous, parce que vous savez, les organisations, l'écosystème sur place, ils savent qui est vrai et fausse victime. Et c'est tout le travail que nous allons faire au niveau de l'identification. Ça serait de faire en sorte de connaître qui sont ces victimes, où ils sont exactement, comment il faut et comment, au fait, faire en sorte que ces vraies victimes puissent être identifiées et finalement les inclure dans la liste unique consolidée qui sera gérée sous le leadership du ministère des Droits humains avec les experts du Fonarev.
Et cette identification prendra 15 mois. Donc, disons, toute l'année 2024, par exemple.
Oui, mais M. Kachama, il faut faire des choses de manière empirique et pour faire un travail sérieux. Oui. D'où l'implication de toutes les parties prenantes. Ça serait irresponsable de notre part de dire que nous pouvons identifier 30 ans de victimes en 3 mois.
Non, c'est impossible.
C'est impossible. Et même ces 15 mois, ce sont, dirons-nous, des propositions pour faire en sorte de faire un travail qui soit sérieux et reconnu au niveau des experts. Donc, effectivement, à partir de l'identification pilote que nous avons proposée, on pourra dire avec exactitude quelle serait la période qui nous permettra de faire une identification crédible, fiable et acceptable par tous.
Voilà, nous parlons de mécanismes d'identification des victimes des violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité. Voilà, c'est le sujet était au centre du premier forum national sur l'identification des victimes des violences sexuelles organisé par le FONAREV. Alors, les participants sont venus des divers horizons. De quelles provinces particulièrement?
De 26 provinces.
De 26 provinces.
Oui, de 26 provinces de la République, les associations, les victimes. En fait, c'est tout l'écosystème de toute personne, toute entité qui est liée d'une manière ou d'une autre, que ce soit étatique, que ce soit organisation nationale, ONG, le Bureau conjoint des Nations Unies en RDC. Toutes ces personnes ont été conviées pour faire cet échange d'expertise et des éléments pour nous permettre d'aboutir à quelque chose qui soit acceptable par tous.
Bien. Alors, il y a eu trois commissions. Il y a eu la commission identification, gestion de l'écosystème, oui. Et puis communication. Au niveau de la communication, qu'est-ce qui a été retenu?
Au niveau de la
communication. À part l'utilisation des victimes.
Je l'ai dit. Non seulement les victimes en tant que, la victime en tant que acteur dans la communication. Donc, il était question de faire en sorte également qu'on puisse travailler au niveau aussi bien en amont, donc pendant et après l'identification. Et tout se passe au fait au niveau de la communication. Eux vont nous permettre effectivement de rendre cette partie de l'identification, de vulgariser l'identification au niveau national. On parlait, il était question aussi de le mettre, de traduire le texte dans les quatre langues nationales de la République démocratique du Congo. Il y aura toute une série des colloques ou avec l'armée, la police. Il y a toute une série de choses qui seront faites au niveau de la communication pour rendre cela utile. Et notre plus grande campagne, c'est plus jamais seul. On doit faire passer des messages au niveau de la population et faire passer un message au niveau des victimes qui doivent s'exprimer, parce que s'ils ne s'expriment pas, on ne connaîtrait pas qui est la vraie victime. Il y a tout un travail vraiment de vulgarisation et d'appropriation, aussi bien au niveau des victimes que de la population congolaise.
Voilà, c'est ça. La difficulté, c'est qu'il y a aussi des victimes à cause de la stigmatisation dans leur milieu de vie, préfèrent garder silence, ne pas en parler, tout ça. Comment vous arriverez aussi à les faire parler, à briser les silences autour de ça?
Je pense que le fait de mettre un sérieux et d'en garder, une certaine intimité, le secret. D'une confession ou d'un témoignage, c'est tous ces aspects que nous allons mettre autour de la victime qui sécuriseront finalement la victime, puisque la victime puisse s'exprimer comme il se doit. Donc il y a vraiment une volonté de faire en sorte que la victime puisse avoir confiance non seulement aux mécanismes que nous allons mettre en place, des enquêteurs qui seront sur le lieu, les points où nous mettrons pour l'identification, pour que les personnes puissent avoir cette confiance et s'exprimer par rapport aux préjudices qu'elles ont subis.
Bien. Alors, pour terminer, M. Lucien Londoula, je rappelle que vous êtes directeur général du FONAREV, le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on peut dire que ces forums étaient un réel succès?
Absolument, parce que il y a eu des débats houleux, il y a eu un franc-parler, et par moments, c'était vraiment assez tendu. Mais ça a pu, en fin de compte, produire des recommandations que les différentes commissions ont formulées. Et ces recommandations seront prises en compte par le FONAREV au moment de mettre en œuvre l'exercice d'identification, l'exercice pilote que nous allons entamer.
Est-ce que vous comptez le faire?
En tout cas, nous travaillerons sur un TDR. En tout cas, nous voulons faire en sorte que le plus tôt possible, probablement le premier trimestre 2024, où nous commencerons pour faire en sorte que d'ici la fin de l'année ou l'année 2025, que nous puissions réellement débuter avec nos réparations.
Bien, Monsieur Lucien Londoula, directeur général du FONAREV, Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre l'humanité. Merci.
Merci à vous.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde de Tati Mapoukou, assuré la coordination et la réalisation de cette émission au micro aujourd'hui Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.